Réplique, l'identité arménienne avec Raymond Kevorkian et Michel Marian. Dans un livre intitulé « La présence de Dieu dans l'histoire », le philosophe Émile Fackenheim écrit ceci. Aujourd'hui, la distinction entre juifs religieux et juifs séculiers est supplantée par celle entre juifs inauthentiques qui fuient leur judéité et juifs authentiques qui l'affirment. Ce dernier groupe comprend des religieux et des séculiers et ils se trouvent unis par la voie prescriptive qui se fait entendre depuis Auschwitz. Que prescrit la voie d'Auschwitz? Il est interdit aux Juifs de donner à Hitler des victoires posthumes. Il leur est prescrit de survivre comme Juifs, de peur que périsse le peuple juif. Il leur est commandé de se souvenir des victimes d'Auschwitz, de peur que périsse leur mémoire. J'ai repensé à ce texte en lisant « L'Arménie et les Arméniens, les clés d'une survie » de Michel Marian et « Seule la terre viendra à notre secours », le journal d'une déportée du génocide arménien de Serpouy Ovagian, édité par Raymond Kevorkian. À celui-ci et à Michel Marian, je voudrais poser une question tout à la fois personnelle et générale. Existe-t-il pour les Arméniens une voie prescriptive du génocide de 1915 ? Michel Marian.
Oui, je crois que la formule que je découvre est très forte, frappante, et qu'elle peut s'appliquer au cas arménien. Je n'en dirais peut-être pas autant du début du texte que vous avez cité, Alain Finkielkraut, c'est-à-dire le juif authentique et le juif inauthentique, dans la mesure où pour les Arméniens, il n'y a pas le même risque d'antisémitisme qu'il peut y avoir pour les Juifs, en tout cas les Arméniens de la diaspora. On parlera du destin vulnérable de l'Arménie, c'est autre chose. Mais pour ce qui est de la voie prescriptive, oui, bien sûr, il y a eu à un moment donné un projet de faire disparaître les Arméniens, et ça fait partie de, et c'est même peut-être le nerf du besoin de transmission et de maintien d'une forme d'arménité. Le nerf, c'est le fait de répondre négativement à cette volonté destructrice. Maintenant, il faut peut-être l'illustrer en faisant un détour. Si on regarde sociologiquement, on vit dans un monde de diaspora avec un S très nombreuse dans tous les pays, et des études sont faites. On voit que objectivement, les Arméniens n'ont pas, ce sont pas eux qui gardent le plus leur langue, par exemple. Je crois que des études ont été faites aux États-Unis, ce sont les Hongrois, parce que comme leur langue est très très difficile, il y a une fierté plus grande. Enfin bon, les Arméniens ne sont pas ceux qui sont le plus endogames. Ils le sont beaucoup au début, mais ensuite au bout de deux générations, enfin en tout cas en pays chrétien, ils sont exogames à 90%, donc. C'est pas non plus l'une des raisons. Et pourtant, ils frappent par leur résilience collective. Et ça, je pense que ça tient principalement à cette voie prescriptive.
Raymond Kevorkian, quelle est votre... Oui. Entendez-vous cette voie prescriptive, ou entendez-vous... Enfin, pensez-vous que ce soit important pour les Arméniens d'aujourd'hui ?
Je pense même qu'elle est centrale, essentielle. Il faut quand même souligner que cette diaspora arménienne qui est si souvent évoquée, elle est le fruit du génocide. C'est une grenade qu'on a fait éclater, et avec une dispersion de survivants qui va des États-Unis à l'Australie. C'est donc un phénomène nouveau et la naissance, on va dire, d'une identité arménienne diasporique, on peut parler de ça, repose largement sur ces fondations de cette violence originelle qui bâtit des individus et avec probablement un saut de génération. Moi je l'ai c'est peut-être un peu caricatural, mais je l'ai observé souvent. Donc, non pas la première génération qui naît en France, mais la deuxième qui s'empare de la mémoire et de l'héritage douloureux.
Oui, mais alors, cette deuxième génération s'empare de la mémoire et de l'héritage douloureux. De cet héritage, nous allons parler. Simplement, Michel Marion va nous dire que l'exogamie est très majoritaire parmi les Arméniens. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que d'ici quelques générations, l'identité arménienne est destinée à se dissoudre? Elle n'est pas la seule, mais je sais que, par exemple, dans les communautés juives, il y a toujours cette inquiétude. Est-ce que mon fils, ma fille va épouser un juif ou une juive? Cette inquiétude était exprimée naguère de manière parfaite, quelquefois très pressante. Aujourd'hui, moins, mais en tout cas, elle existe pour précisément que la dissolution n'ait pas lieu. Donc,
alors,
qu'en pensez-vous, Michel Marion?
Je crois d'abord que il faut qu'on ajoute un codicille à ce propos de Falkenhayn, c'est que ce type d'injonction ne peut devenir aussi fort que pour des peuples qui ont déjà, j'allais dire, un terrain, une histoire favorable à cette réception. C'est-à-dire que, c'est ce que dit le grand historien Yerushalmi pour les Juifs, il y a un impératif de se souvenir, oui. Et on parle pour des périodes bien plus reculées que celles d'Auschwitz. Pour les Arméniens, c'est pareil. Il y a un martyrologe très tôt, puisque l'une des grandes fêtes encore aujourd'hui en Arménie et dans la diaspora, c'est ce qu'on appelle Vartanants, c'est-à-dire la remémoration d'une défaite qui a été une défaite des Arméniens au 5e siècle face aux envahisseurs perses qui voulaient les faire changer de religion. Et ça a été ce qu'on peut appeler une défaite féconde, c'est-à-dire qu'ils ont perdu, mais le degré de leur résistance a fini par dissuader les Perses de vouloir leur faire changer de religion et donc, à l'époque, d'identité. Donc, il y a ce terrain favorable à une sorte de prise en compte d'une histoire cyclique, avec des moments de soulagement, voire de résurgence, et des moments, au contraire, d'abattement, de destruction. Je crois que c'est il faut avoir ça à l'esprit. Alors maintenant, pour l'avenir, il y a plus d'exogamie, je pense, chez les Arméniens, parce qu'il y a ce facteur d'environnement religieux nouveau. C'est presque comme après 15 siècles entourés de peuples avec lesquels il n'y avait pas de proximité religieuse, même les orthodoxes géorgiens, puisque il y avait des excommunications, il y a comme une sorte de soulagement à pouvoir se développer personnellement dans un milieu où
plus accueillant.
Oui, plus accueillant, voilà. Et derrière, bien sûr, il y a la crainte d'une dilution, d'une disparition. Alors, on peut pas du tout l'exclure. C'est vrai que ce qu'on peut appeler les terres d'islam ont été à certains moments troublés par des agitateurs anti-chrétiens, anti-minorités, que ce risque a toujours existé pour les Arméniens. Mais par ailleurs, on doit reconnaître qu'elles ont été globalement propices au maintien d'une communauté fermée, repliée sur elle-même. Ça change beaucoup en ce moment, puisque malgré, j'allais dire, ou à cause de l'indépendance de la République arménienne, il y a un exode qui se fait vers la Russie, vers les États-Unis, principalement ces deux pays, un peu en France. Et par ailleurs, pour d'autres raisons, l'instabilité profonde du Moyen-Orient et les menaces sur les minorités chrétiennes touchent aussi les Arméniens qui partent de Jordanie, du Liban, d'Iran, etc. Ce qui veut dire que si on suit les tendances qui ont toujours eu lieu, effectivement, il y a une dilution du peuple arménien puisqu'il est projeté à l'ouest et que l'ouest le dilue. Alors, la solution, on peut la voir, mais embryonnaire, dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est charge aux Arméniens de communiquer leur expérience, leurs épreuves, leur fidélité à leurs conjoints et à leurs enfants.
Oui, et en même temps, il existe quand même un État, une république arménienne, pour en effet que cette identité perdure. Alors, revenons-en, Raymond Kevorkian, à cette question du génocide lui-même. Vous éditez, je l'ai dit tout à l'heure, un petit livre très émouvant, « Seule la terre viendra à notre secours » de Serpouy Ovagian. Donc, journal d'une déportée du génocide arménien. Pourquoi cette édition? Que nous apprend ce livre? En quoi nous éclaire-t-il sur cet événement incommensurable?
Alors, je vais commencer en soulignant la singularité du document lui-même, du genre. On l'a appelé journal. Il ne s'agit pas de mémoire de rescapé qui est passé par les marches de la mort, les camps de concentration des déserts de Syrie, mais d'une personne qui arrive à fuir en cours de route. Et qui passe plusieurs années, jusqu'en la fin 1917, en se dissimulant chez les uns, chez les autres. Elle écrit par bribes pendant la période du génocide. Et en fait, c'est un témoignage sur l'art de survivre dans des circonstances aussi exceptionnelles. Et de ce point de vue, c'est un document rarissime. Voilà le pour résumer. Le personnage lui-même, il est intéressant. Il s'agit d'un milieu, on va dire, de la bourgeoisie arménienne, d'un port de la mer Noire, Trébizonde, marié à un marchand de tabac, qui se retrouve veuve à 22 ans. Elle a déjà deux enfants. On empoisonne l'un d'eux à l'hôpital de Trébizonde, où qui servait à expérimenter des saloperies sur les gamins.
Qui est ce on empoisonne? Qui est ce
Alors, c'est le Croissant Rouge turc qui gérait cet établissement. Voilà, vous voyez, une grande vocation humanitaire déjà à l'époque.
L'époque, c'était quelle année?
Là, ça se passe en 1915, et très exactement en juillet 1915, au moment où déporte les Arméniens de la région de Trébizonde. Donc, j'ai fait un travail de reconstruction de micro-histoire, puisqu'on dispose évidemment des dates de départ des convois de Trébizonde. On sait qu'elle était dans le deuxième convoi, grâce à quelques détails. Son expérience personnelle est intéressante. Elle est confrontée déjà à, on va dire, à une prédation classique. Un notable turc essaye de l'épouser, je mets des guillemets bien entendu, c'est-à-dire de l'islamiser, de la turquifier. Elle arrive assez habilement à survivre. Comme elle est Trébizonde, elle est hellénophone, donc elle arrive à se dissimuler chez des Grecs. Ensuite, elle passe chez des Levantins, qui s'appelait les Colaro, qui vivent eux dans un autre port qui est un peu plus loin. Comme elle parle grec, elle se fait passer aussi pour catholique, elle change de nom. Enfin, vous voyez, il lui arrive de changer de demeure quasiment tous les jours pour fuir la police qui les traque, parce qu'elle n'est pas la seule. Ils sont quelques centaines comme ça à aller venir, à éviter de faire du bruit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un témoignage sur le terrain, c'est-à-dire dans des régions où le génocide est en cours d'action.
D'accord. Alors. Et vous avez parlé de convoi. Alors évidemment, le mot convoi évoque, bien sûr, l'extermination des Juifs. Alors, la question là que je pose, Que s'est-il passé en 1915 pour que les jeunes Turcs, c'est ça, décident une extermination? Nous sommes en pleine guerre. Pense-t-il que les Arméniens sont une cinquième colonne au service d'un pays ennemi, ou met-il à profit justement cette guerre pour exécuter un ancien projet, l'anéantissement de la communauté arménienne? Michel Marian.
Alors, avant de répondre, un mot pour dire à quel point, effectivement, ce témoignage, comme l'a dit Raymond, est passionnant. Il est passionnant, je dirais, justement, parce que c'est pas uniquement un témoignage. Il s'écarte un peu de toute la littérature qui consistait à construire des pièces à charge, dans le cas où, qui a eu lieu d'ailleurs, où des tribunaux se réuniraient après la guerre. Et il est plutôt, moi j'ai trouvé un outil, enfin outil, le mot n'est pas très bon, mais une sorte de bréviaire, de livre de prière, où c'est le fait de tenir le carnet qui va lui permettre, qui va être l'un des éléments de sa survie. Il y a deux éléments. Il y a sa débrouillardise que Raymond Kevorkian a raconté, qui est très intéressante, qui rappelle un peu celle du grand écrivain Yervand Odian aussi quand il écrit son journal de déportation. C'est pas sa facilité, mais en tout cas sa capacité à quitter justement les convois, considérer que elle n'est pas prise définitivement quand elle passe par un bon. Donc il y a cette débrouillardise, mais de l'autre côté, il y a en permanence les sanglots de cette âme qui n'était pas destinée à vivre dans le malheur. Et ces sanglots sont des revendications qui sont adressées pas tellement à Dieu, puisque tout à l'heure on parlait de la religion chez les Arméniens, mais plutôt aux écrivains. Oui, et ça passe par la médiation de la littérature, souvent de la littérature française. On voit quelle était l'influence de la littérature française à l'époque, russe aussi, mais française pas mal, à cette époque-là, dans la bourgeoisie, puisqu'elle appartient à la bourgeoisie arménienne cultivée de province, pourtant, on n'est pas à Constantinople. Et le passage entre les poèmes qu'elle se force à réécrire, parce qu'ils peuvent l'aider dans sa souffrance, et les poèmes qu'elle écrit elle-même, tout ce passage qui est souvent pas très clair, où on se perd, mais c'est vraiment une fenêtre sur son âme, et c'est tout à fait émouvant.
Oui, et d'ailleurs il y a la liste de lecture, hein, oui. Que vous établissez, enfin qu'elle établit elle-même, les livres que j'ai lus: Tolstoï, Résurrection, Anna Karénine, Le Faux Coupon, Alfred de Musset, Les Confessions d'un enfant du siècle, Alexandre Dumas fils, La Dame aux Camélias, Victor Hugo, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, Sienkiewicz, Quo Vadis, Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, Manon Lescaut, Paul et Virginie de Bernardin Saint-Pierre, La Correspondance d'Alfred de Vigny, et d'autres poésies d'Alfred de Musset, de l'amour par Stendhal. Évidemment, c'est bouleversant.
Elle est parfaitement francophone, en fait. Et même une partie du journal est rédigée en français, environ 30%.
Oui, mais alors...
Donc on voit à quel point la francophonie a perdu avec ce génocide aussi.
Oui, oui, c'est vrai. Et cela dit, il y a 2 ans, je crois, Erevan était capitale de la francophonie.
Tout à fait. Mais c'est un peu différent. Si on entre dans le détail, l'influence culturelle française était très forte chez les Arméniens de l'Empire ottoman, alors que chez les Arméniens de Russie, c'était plutôt l'influence allemande, pour des raisons liées à la Russie, justement, oui. Les universités allemandes et leur prolongement en Russie.
Alors maintenant, je peux poser ma question plus générale, Michel Marian. Que s'est-il passé en 1915? Pourquoi cette décision à ce moment-là?
Alors, je vais donner mon point de vue, mon éclairage, mais je pense que Raymond est beaucoup plus habilité que moi à apporter une réponse complète. Moi, je pense qu'il y a eu 3 courants qui ont convergé pour que ce génocide ait lieu, et ait lieu dans les formes où il a eu lieu. Le premier courant, c'est un courant extrêmement modernisateur, rationaliste, et on le voit dans des attitudes et des comportements inouïs. Talat, le principal organisateur du génocide, a des carnets dans lesquels il note semaine par semaine, le nombre de disparus arméniens. Et il a des objectifs qui sont des objectifs statistiques, que le nombre des Arméniens ne dépasse pas 5% dans certaines provinces, ça peut aller jusqu'à 10% dans d'autres maximum. Donc il y a un aspect de modernisation dans les formes qui est remarquable et qui quelquefois empêche qu'on comprenne vraiment ce génocide, puisque il n'est pas il dit oui à la modernité d'une certaine façon. Le deuxième courant, c'est le courant d'un nationalisme ethnique. C'est l'idée que on a perdu les Balkans, mais que il est désormais impossible d'avoir soit deux projets nationaux en Anatolie, le projet turc et le projet arménien, et qu'il est impossible de vivre ensemble dans des conditions d'État moderne, pas dans des conditions de l'empire basé sur la religion. Donc, il faut que les Arméniens disparaissent pour que le projet national turc puisse s'affirmer. Alors vous me direz, oui, mais il n'y avait pas que les Arméniens et les Turcs en Anatolie, il y avait les Kurdes. Mais justement, le pari de ces jeunes Turcs, c'était que était basé quand même sur la communauté de religion et l'idée que les Kurdes seraient turquifiables, ce que les Arméniens ne seraient pas. Donc c'est le deuxième courant. Et puis le troisième courant, c'est quand même la résurgence d'une forme d'islamité agressive, méprisante et enfin soulagée dans ses pulsions destructrices par l'ordre donné par le gouvernement de pouvoir soit islamiser, soit torturer, détruire les Arméniens. C'est ce retour de fanatisme, c'est quelque chose sur lequel les dirigeants jeunes turcs pouvaient compter parce qu'ils l'avaient vu à l'œuvre 20 ans ou 30 ans plus tôt dans les grands massacres d'Arméniens qui avaient eu lieu et qui avaient eu lieu souvent dans des conditions atroces.
Oui, alors justement, ces grands massacres ont frappé l'opinion française, vous le dites dans votre livre, notamment Charles Péguy à plusieurs reprises, et dans un texte contre Jaurès, il reproche Jaurès d'avoir dit, peut-être ne l'a-t-il pas dit, rien ne fait de mal. Rien ne fait de mal. C'était un peu l'idée d'un travail du négatif. Et là, Péguy anticipe Emmanuel Lévinas qui écrit « La dialectique où le mal rend service au bien, où le bien peut objectivement être une force du mal, est confusion et nuit. Il faut une révolution qui dissipe cette confusion. Il faut que le bien soit le bien et le mal le mal. » C'est un peu le propos de Péguy quand il se réfère au massacre de 300 000 Arméniens, 1896, je crois.
Oui, c'est ça.
Et alors, mais la question que je pose, pourquoi soudain ce saut qualitatif? Pourquoi 1915, ça doit-il être l'extermination totale?
Alors, il y a une distinction claire, c'est que les massacres de 95-96, ils concernent essentiellement les hommes adultes et ne visent pas directement les femmes et les enfants. Bon, donc on n'est pas dans une situation génocidaire classique, si on peut dire, mais dans une volonté, on va dire, d'arraser en quelque sorte démographiquement la population arménienne, de l'affaiblir. Mais je voudrais dire juste un petit mot pour compléter ce qu'a dit Michel. Il y a aussi une dimension sociologique dans le génocide qu'il ne faut pas ignorer, et en particulier les déséquilibres qui ont été engendrés par une évolution du système éducatif, notamment au milieu arménien. Il y avait environ 2500 établissements scolaires arméniens gérés en interne, qui venaient non pas compléter un système impérial qui n'existait pas en fait. Donc, avec une éducation plutôt inspirée de modèles français, européens, des jeunes gens qui partaient faire leurs études en France, en Grande-Bretagne, en Italie, un retour, un process de démocratisation interne dans la communauté arménienne, mais je pourrais en dire autant pour les communautés grecques ou juives, qui étaient exactement dans le même modèle. Et à côté, une population, je vais dire musulmane pour simplifier, hein, puisqu'il y avait des Arabes, des Turcs, des Kurdes, etc., qui reste limitée pour l'immense majorité, hein, des médressés. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, la dimension économique. Le système impérial était fait de telle manière que le politique et le militaire étaient réservés aux groupes dominants. Hein, c'est pas des schémas, c'est des réalités objectives. Et on avait confié l'artisanat, le commerce, comme des fonctions subalternes aux Arméniens, aux Grecs et aux Juifs. Et le début d'industrialisation dans l'Empire ottoman fait que on assiste à la montée en puissance d'entreprises non musulmanes qui tiennent 80% de l'économie. Et donc la suite logique, vous l'avez compris, il y a des frustrations. On lit des témoignages dans le moindre village ou la petite ville de province où l'Arménien et son voisin ou turc ou kurde sont envieux. Et voilà.
Alors, mais
ça a nourri évidemment
l'animosité.
Oui, et la singularité du cas arménien, c'est que c'est un génocide de voisinage.
Un génocide
qui n'existe pas dans le cas de la Shoah.
Non, et qui existe
dans le cas du Rwanda.
Je ne vais pas dire, j'ai travaillé 2 ans dessus.
Qui existe dans le cas du Rwanda. Mais alors, je comparais au début la situation des Juifs et des Arméniens autour du thème de la voie prescriptive. Il y a quand même une singularité arménienne qui me paraît particulièrement douloureuse, c'est la non-reconnaissance de ce génocide par la Turquie. Il n'y a pas de non-reconnaissance d'Auschwitz par l'Allemagne. Et s'il y avait, ça rendrait les Juifs fous. Alors, la question c'est pourquoi ? Pourquoi cette non-reconnaissance ? Puisque Mustafa Kemal, le père de la Turquie moderne, a qualifié le génocide d'acte honteux. Alors, d'où vient cette crispation qui se manifeste d'ailleurs chaque année au moment du le 24 avril, au moment de l'anniversaire du génocide? Comment on peut expliquer ça, Michel Marion?
On pourrait dire que pour Kemal, rien ne fait de mal, pour reprendre la formule que Peggy a reproché à Jaurès. J'en profite donc pour faire quand même une parenthèse et dire que Jaurès a été, à l'époque des massacres de 1895-96, la voix la plus forte qui s'est fait entendre pour les Arméniens, est tellement forte d'ailleurs qu'il y en a un souvenir littéraire dans Jean Santeuil de Proust, où sous un nom que j'ai oublié, il décrit Jaurès montant à la tribune et retournant la chambre sur la question de la solidarité avec les Arméniens. Mais il est vrai que en 1909, lorsqu'il y a eu un nouveau massacre à Adana, en Cilicie, et que c'était sous le début de pouvoir des jeunes Turcs, Jaurès, là, ne tenait plus tellement à ce qu'on en fasse agitation en France, parce que il voulait laisser leur chance aux jeunes Turcs.
Aux progressistes.
Voilà. Il y a une sorte d'aveuglement progressiste. C'est important à noter parce que ça peut se retrouver à d'autres moments dans l'histoire. Alors,
sur ce refus, sur cette crispation turque.
Il y a des recherches qui n'ont pas été faites pour regarder comment les gouvernements turcs, lorsqu'ils ont été saisis de la revendication arménienne, pour des raisons de génération auxquelles Raymond a fait référence tout à l'heure, elle n'a surgi vraiment fortement que dans les années 60. Et elle a surgi d'autant plus fortement qu'il y avait une évolution de la pensée juridique internationale après Auschwitz, enfin après Nuremberg, et une évolution propre de l'ONU qui avait déclaré imprescriptible le crime de génocide. Donc ça, le contraste entre le sort des Arméniens qui n'avaient pas eu droit à un procès, ou plus exactement le procès avait commencé, mais il avait été dispersé par les troupes de Mustafa Kemal. Donc vous voyez à quel point il était double, Mustafa Kemal, c'est-à-dire capable de critiquer les jeunes Turcs pour les évincer du pouvoir au sein des rangs nationalistes, et une fois que c'était fait, considérer que ce qu'ils avaient accompli, c'était déjà ça de prix. Hein. On est en 65, 66, ou disons 70, les gouvernements turcs de l'époque sont saisis de cette revendication. On peut se demander aujourd'hui avec le recul, pourquoi ils n'ont pas cherché à traiter, à donner quelque chose aux Arméniens. Effectivement, il y a une sorte de résistance symbolique dans laquelle depuis ils se sont enfermés au point de se rendre ridicules. Il y a cette résistance qui doit venir, c'est de deux choses. D'une part, la résistance matérielle des gens qui se sont enrichis. Il y a beaucoup de grandes familles industrielles.
Et ils ont peur des réparations possibles, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. De grandes familles industrielles qui ont peur d'avoir à rendre des choses. Alors, il y a en particulier Sabancı, enfin, il y a certaines des grandes familles turques, qu'on voit d'ailleurs davantage depuis que la Turquie est prospère, c'est-à-dire pas depuis 1960, mais depuis les années 2000. Et puis, l'autre chose, c'est quelque chose à un niveau plus symbolique, c'est-à-dire que la République turque a été fondée sur cette destruction des Arméniens. C'est-à-dire sur le fait que, ce que je disais tout à l'heure, il y a des citoyens de la République turque. Ces citoyens de la République turque, sans qu'on le dise, mais on le retrouve à des tas de tas de façons, sont réputés être musulmans, en fait, au départ. Et on oublie comment on en est arrivé là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, une crispation qui est extrêmement forte. Voilà.
Raymond Kevorkian, vous avez quelque chose à ajouter sur ce
thème? Oui. Bon. Il y a un élément essentiel, c'est que les fondateurs de la République turque contemporaine, ce sont des cadres jeunes turcs qui ont travaillé aux côtés de Mustafa Kemal. Pour vous donner un éclairage, dans les années 60, le président de la République de Turquie est un ancien cadre jeune turc de l'organisation spéciale qui était chargé de la liquidation des Arméniens dans la région de Smyrne.
Bayard.
Bayard, voilà, dont le... Bon, peu importe. Ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, président du Parlement, tous les cadres fondateurs de la Turquie sont des criminels jeunes turcs. Donc, pour la Turquie, pour cet environnement singulier, reconnaître le crime, c'est remettre en cause les parents ou les grands-parents. Vous voyez, et comme l'a dit Michel, c'est un acte fondateur, le crime commis contre la population arménienne.
Je fais juste une parenthèse.
Michel,
c'est exactement la raison pour laquelle le livre qui peut-être en Turquie a eu le plus d'influence dans la révision par une partie de la société de ce regard sur la question, sur le génocide arménien, c'est le livre de Cemal, du petit-fils de Cemal. Cemal était l'un des principaux organisateurs du génocide, membre du triumvirat avec Talat, dont j'ai parlé tout à l'heure, et le troisième était Enver. Et son petit-fils, journaliste, tout ce qu'il y a de plus...
Kémaliste, classique.
Oui, dans les cercles du pouvoir, à un moment, décidé de regarder les choses par lui-même, et il en a conclu que c'était un génocide, c'est le titre, je crois, de son livre, et ça a secoué plus que beaucoup d'autres témoignages, plus que beaucoup d'autres analyses historiques.
Donc tout n'est pas joué, peut-être y aura-t-il un réveil de la société.
Non, mais bien sûr que tout n'est pas joué. Entre les années 2002 ou 2000 et 2015, beaucoup de choses avaient avancé, et une fraction pas totalement négligeable de la société turque voulait que les positions du gouvernement évoluent sur la question. Et puis il y a eu un retournement, on va pas rentrer dans les détails, à partir de 2016, et c'est juste au moment du centenaire du génocide, mais à cause de relations avec les Kurdes, d'un équilibre politique différent d'Erdogan. Donc là maintenant, on en est obligé à attendre que Erdogan quitte le pouvoir pour que peut-être une nouvelle situation se développe dans la relation au génocide.
Alors, une dernière question autour du génocide. Face à cette situation, les Arméniens ou des Arméniens ont réclamé la pénalisation de la négation du génocide sur le modèle de la loi Gesso pour l'extermination des Juifs. Et il y a eu en France un épisode assez pénible, la mise en cause de Bernard Lewis, ce très grand historien qui a eu un débat de l'islam, qui a eu un débat avec Édouard Saïd, une réponse à l'orientalisme, c'est lui qui avait raison, c'est Édouard Saïd qui a gagné, et c'est le mouvement woke, et le, si vous voulez, le descendant d'Édouard Saïd. Bon, mais Bernard Lewis refuse de parler de génocide, reconnaît qu'il y a eu des massacres. Est-ce que ce discours historique-là mérite la pénalisation, ou est-ce que ça ne vient pas justement d'une susceptibilité particulière des Arméniens, étant donné l'attitude du gouvernement turc?
Raymond Kevillian. Alors, il faut d'abord souligner que Bernard Lewis n'a pas toujours eu une position aussi radicale. Dans ses premières publications, il assume totalement le génocide des Arméniens.
Il l'appelle Holocauste.
Voilà. Alors, vous voyez,
ça je ne savais pas.
Ça se passe dans les années 60, début des années 70.
C'est vraiment le début des années 60, c'est-à-dire avant que voilà. Ça devienne pour les Arméniens une revendication.
Ouais. Ah oui, d'accord.
Mon sentiment, c'est que Bernard Lewis, outre ses activités universitaires, s'est positionné sur des champs politiques et probablement à la lumière de ça, a opté pour une position négationniste.
C'est triste, vous allez jusqu'à parler de négationniste dit massacre et pas génocide.
Oui. Si vous voulez, il s'inscrit aussi à une période où, dans les milieux universitaires, notamment aux États-Unis et un peu les écoles de turcologie en Europe, soit on censure la question, on l'ignore, ou bien on prend des positions qui sont quasiment alignées sur le dogme développé à Ankara.
Mais il l'a fait notamment parce qu'il soutenait la Turquie laïque, et on voit ce que ça a donné avec Erdogan, Michel Marian.
Oui, d'accord, mais à la fois ce qu'on a essayé de montrer, c'est-à-dire que la conception du génocide, son exécution et ensuite sa dénégation, elles sont allées de pair avec la construction de la Turquie laïque. Hein, Erdogan, lui, dans un premier temps, a même essayé de jouer de l'islamité pour s'éloigner du génocide. C'est cette complication aussi qui... Alors, moi, je n'aurais pas un mot de défense pour Bernard Lewis sur cette affaire. Je pense qu'il a vraiment... il a vraiment joué un rôle très, très, très négatif, simplement parce qu'il voulait soutenir
la Turquie
laïque. Ça ne remet pas du tout en cause l'intérêt des travaux de Bernard Lewis, en particulier les travaux sur les questions que se posaient les élites turques et des solutions qu'elles pouvaient avoir après le déclin de l'Empire ottoman.
Bien. Alors, maintenant, je voudrais, si vous voulez, élargir un peu les choses. Dernière analogie avec les Juifs. Il y a des Juifs de la Shoah, des Juifs de la mémoire douloureuse. Mais... peut-être sont-ils authentiques au sens de Sartre et de Fackenheim, mais ils peuvent aussi se transformer en victimes imaginaires. Donc, est-ce qu'une identité du sanglot, une identité seulement mélancolique est possible ? Il me semble au contraire, quand je lis votre livre, Michel Marian, que vous voulez nous rappeler même la richesse de l'identité arménienne, et notamment pour sortir un peu de cette identité du sanglot. Michel Marion.
Oui, non, vous avez tout à fait raison. C'est l'intention qui a présidé à ce livre. Maintenant, évidemment, d'une part, on peut se dire que cette intention-là, elle n'est que l'instrument de la prescription
de la voie prescriptive
dont on parlait tout à l'heure. On peut dire ça, mais surtout on peut aussi constater, et je dois l'admettre, que entre le moment où le livre a été conçu et où son intention était massivement, je dirais, celle que vous dites, et je ne regrette pas d'avoir essayé d'apporter le plus de pièces possible à une vision enrichie de la culture arménienne, pas simplement d'ailleurs pour les gens qui sont arméniens ou originaires, bon, mais pour les autres qui sont confrontés, et pour vous-même. Néanmoins, il s'est passé quelque chose qui a changé l'atmosphère. C'est cette guerre, cette deuxième guerre du Karabakh, qui a, d'une certaine façon, rappelé aux Arméniens leur vulnérabilité. Alors, leur vulnérabilité. Ensuite, on peut discuter du degré de cette vulnérabilité, mais quelque part, c'est assez proche de ce qui s'est passé en 1909, c'est-à-dire les Arméniens de Cilicie, d'Adana, qui étaient dans un lieu chargé d'histoire pour eux, qui étaient parmi les communautés les plus riches et qui ont été les premières cibles de ce réveil d'un nationalisme turc très, très violent. Bon, là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les Arméniens avaient trouvé une voie démocratique et un mouvement qui les rendait fiers d'eux collectivement dans le présent, pas uniquement dans leur passé avec Nicole Pachignan. Et il s'est passé donc cette attaque azerbaïdjanaise qui n'était pas totalement inattendue, mais enfin dont le succès rapide a rabattu beaucoup d'espoir, ce qui fait que on est obligé d'en tenir compte dans la façon qu'on a de regarder le destin de ce peuple ou de ces communautés.
Alors, un mot quand même. Donc, il y a cet élargissement dans votre livre. On apprend notamment comment l'identité arménienne a pu survivre en l'absence de souveraineté. Il y a eu la souveraineté, mais en absence de souveraineté. Et là encore, c'est un rapprochement avec les Juifs, par la langue, par l'alphabet. Un alphabet particulier, une église aussi particulière, qui a incarné longtemps cette identité, et maintenant nous voici ramenés à la vulnérabilité par la guerre du Haut-Karabakh. Alors, qu'est-ce que c'est que cette région du Haut-Karabakh? Que signifie-t-elle pour l'Arménie? Et faudrait-il souhaiter un rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie pour éviter une troisième guerre, un troisième assaut de l'Azerbaïdjan associé à la Turquie? Raymond Kevorkian.
Bon, pour remettre dans le contexte le Haut-Karabakh, il s'agit d'une de ces régions qui ont été créées de manière artificielle et rattachées à l'Azerbaïdjan, mais c'est valable aussi pour d'autres régions de l'URSS, comme autant de bombes à retardement que le pouvoir central a déposées en se disant qu'à un moment ça pourrait servir. Vu côté arménien, le Karabakh, comme d'autres régions qui étaient à population arménienne, constitue autant de régions qui ont été, il y a eu une ablation qui s'est produite. Hein. L'Arménie, c'est une peau de chagrin, quoi. Et le Karabakh, c'est symboliquement une des dernières régions encore avec une population arménienne qu'on veut liquider. Et de ce point de vue, la guerre a été perçue comme un prolongement du génocide, toujours avec la même logique de liquider, d'exterminer la population sur place, de prendre leurs biens et le contrôle de ces régions. Voilà. Alors, pour l'Arménie, le Haut-Karabakh, c'est symbolique. C'est plus que symbolique. En cédant sur le Haut-Karabakh, l'Arménie a conscience que ça va être son tour après. Vous voyez, il y a cette logique. L'autre élément qu'il faut rattacher à la dernière guerre est le suivant. c'est l'intervention directe de la Turquie dans ses opérations. La direction des opérations militaires directement par des généraux turcs. L'utilisation de toutes les procédures de l'OTAN pour mettre en œuvre ces opérations.
Ah oui, en effet.
C'est pas rien.
C'est pas rien, c'est pas rien. Et puis il y a eu quelque chose de douloureux aussi, que rappelle Michel Marian dans son livre. Le gouvernement israélien a livré à Bakou des drones qui détruisaient les soldats des tranchées arméniennes, malgré les demandes d'universitaires israéliens, comme de représentants d'institutions juives en France. Alors il est vrai que dans les 70, il y a aussi un terrorisme arménien, la Salah, sur le modèle palestinien, parce que certains Arméniens s'identifiaient à la cause palestinienne. Je pense que cette parenthèse est fermée, mais comment expliquer soudain cette rupture de solidarité avec l'Arménie, Raymond Kevorkian?
Il y a jamais eu de solidarité entre Israël et l'Arménie. L'Arménie était dans le camp soviétique. Ensuite, elle avait sa propre logique régionale, avec une relation, on va dire au minimum amicale, bienveillante avec l'Iran. Donc, de ce point de vue, l'Arménie n'a jamais été alignée sur Israël.
Mais il y a une très
dans
forte...
les derniers temps,
il y a une partie de l'opinion israélienne qui se sent une communauté de destin bien, avec les Arméniens.
Mais bien entendu, notamment dans les milieux, le parti Meretz en particulier, qui a été très en pointe sur ces questions et qui avait une posture éthique impeccable et qui était choqué que les autorités israéliennes puissent avoir une posture, on va dire, géopolitique cynique sur la question du génocide.
Michel Marian, vous avez ajouté quelque chose là-dessus, non?
Oui, si, je veux dire que on peut observer, en tout cas dans les pays de diaspora, un rapprochement extrêmement visible entre les communautés arméniennes et juives, entre les organisations juives ou les institutions juives, comme le Mémorial de la Shoah, par exemple, en France. Et je ne parle pas de, disons, la culture juive qui a permis aussi à un certain nombre d'historiens de changer l'attitude qui avait pu être favorisée par la Turquie, qui était une attitude de raidissement sur la singularité de la Shoah. Il y a beaucoup de choses qui ont joué, qui ont rapproché les Arméniens et les Juifs, mais effectivement, par rapport à Israël, c'est autre chose, parce qu'il y a la géopolitique.
Voilà.
Et pour les Arméniens, c'est une souffrance, un peu comme la souffrance de la non-reconnaissance par Israël officiellement
du génocide,
parce que c'est évidemment, d'une certaine façon, Israël qui authentifierait définitivement la qualification de génocide, même si maintenant elle est reconnue internationalement.
Alors, maintenant, pour finir, je voudrais qu'on parle un peu de l'identité arménienne dans les diasporas et notamment en France. Le phénomène de diaspora s'est généralisé au point qu'on parle souvent de communautarisation de la société française, avec la communautarisation d'archipélisation, pour reprendre le terme de Jérôme Fourquet. C'est vrai, beaucoup d'immigrés vivent en diaspora, font venir les leurs, etc. Or, d'un autre côté, dans votre livre, il est question, Michel Marian, de Charles Aznavour, et pour cause, et vous dites, Aznavour, 100% arménien, 100% français. Est-ce que la majorité des Arméniens en France se reconnaissent dans cette définition, Michel Marian?
Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. 100% arménien, 100%
français.
Oui,
oui, non, je dis Aznavour. Oui, je cite Aznavour. Oui.
Moi, je le reprends, mais avec un peu d'ironie. Tout le monde ne peut pas vivre à 200%. Aznavour sûrement, d'autres moins. Ce qu'il y a, c'est que le coût de cette double identité n'est pas très lourd pour les Arméniens, dans la mesure où il y a je ne sais pas si ça va durer, mais il y a effectivement une sorte de, je dis à un moment, une lune de miel entre les Arméniens et les politiques français qui font une sorte de place spéciale à cette communauté parce que elle est un symbole d'intégration réussie tout en ayant une fidélité à ses racines. Et par ailleurs, sur les questions qui sont tranchantes actuellement par rapport à d'autres communautés comme la laïcité, les Arméniens ne posent pas de problème. Donc, pour toutes ces raisons-là, on pourrait dire heureux comme un Arménien en France. Mais il y a sans doute aussi une petite contrepartie à ça, c'est que les Arméniens de France se laissent un peu porter par le mouvement, par les honneurs qu'on leur attribue, comme on l'a fait pour Aznavour au moment de sa mort, alors que les Arméniens d'Amérique, eux, ont une capacité d'organisation, de création d'institutions, d'aide à l'Arménie, que les Arméniens de France peuvent trouver enviable.
Raymond Kevorkian. 100% français, 100% arménien. En tout cas, y a-t-il une contradiction, une difficulté de vivre ces deux appartenances à la fois ?
Bon,
c'est ça que je voulais dire.
On va aller au fond du problème. À quel moment on peut vérifier l'engagement d'individus pour leur patrie au moment des guerres ? Comment se sont comportés les Arméniens pendant la Deuxième Guerre mondiale ?
Manoukian.
Mais pas que lui, je veux dire, moi, vous voyez, je suis originaire du Sud, toute ma famille, mon oncle, était dans la résistance. Ils ne se sont pas posé la question. Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner.
Ah ben, je suis très content que vous donniez cette réponse et de finir cette émission avec cette réponse. Alors, je voudrais renvoyer au livre que vous éditez, Raymond Kevorkian, « Sur la terre viendra à notre secours », le journal d'une déportée du génocide arménien, publié aux éditions de la BNF. Votre livre, Michel Marian, « L'Arménie et les Arméniens, les clés d'une survie en 100 questions ». Et alors, la première question, c'est extraordinaire. Noé, le premier Arménien. Noé, c'est évidemment l'ancêtre commun à toute l'humanité, mais après des mois de navigation, le bateau rencontre la terre ferme et celle-ci est désignée comme la montagne d'Ararat. Donc voilà, l'Arménie remonte très haut, très haut, à la Bible elle-même. Merci beaucoup à vous deux. La semaine prochaine, écoutez cette émission parce qu'elle aura rapport avec celle que nous venons de faire. Nous parlerons en effet de Vassili Grossman et notamment de son livre « Les années de guerre ». Mais il a écrit aussi un journal d'Arménie « La paix soit avec vous ». Mes invités seront Luba Jorgensen et Mathias Hénard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique Félix Delacour. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.